Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona.
Aujourd'hui à l'émission, on discute de l'histoire des rapports entre la France et le Québec du fait de la visite de Gabriel Attal dans la province. Le Monde d'aujourd'hui, du vendredi 12 avril, Julien Corona, vous m'entendez beaucoup à la radio cette semaine, cher auditeur, Julien Corona au micro, Daniel Fortin, la réalisation. Aujourd'hui, on a Gabriel Jarvis, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu à l'émission, Gab, pour parler d'histoire, mais une histoire qui reste d'actualité, c'est l'histoire des relations entre la France et le Québec, parce que cette semaine, c'est la visite du Premier ministre français, Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Il était en visite à Ottawa ce mercredi, et il est à Québec ce jeudi et ce vendredi, donc aujourd'hui, pour la rencontre entre des premiers ministres entre la France et le Québec, une rencontre qui ne s'est pas tenue depuis plusieurs années à cause de différents reports liés à la crise des Gilets jaunes au départ, la Covid ensuite, et pour terminer, la crise des retraites, donc des reports dus du côté français. C'est une relance, mais cette relance permet de remettre en avant l'histoire. Gab, tu vas nous parler de tout ça.
Ben oui, en fait, moi, je vais même parler vraiment de d'où viennent ces relations-là, d'où cette unicité. C'est fort, en fait. Ouais. On peut même y aller il y a un peu plus de temps.
Ouais. Donc, c'est après la conquête, ça a mis du temps, vraiment, en que façon de parler, la mère patrie recommence un peu à parler avec le Québec.
Ben, c'est ça, on peut voir que en 1855, justement, on a une volonté de la France de relancer les relations avec son ancienne colonie. On envoie la Capricieuse, en fait, pour développer des échanges commerciaux avec le Canada uni, donc un navire qui arrive. On raconte qu'il y a une euphorie dans la foule. Mais si on est vraiment dans des relations qui sont plus au niveau des idées, par exemple, les idées républicaines ont pu toucher les patriotes, la littérature y est beaucoup. Ça continue un peu plus. On envoie, mettons, en 1881, Joseph-Adolphe Chapleau, qui va en France pour une mission de 6 mois pour acheter des emprunts financiers. C'est vraiment à cette époque-là, on y va plus au niveau économique. On a aussi des soucis au niveau de l'immigration canadienne-française. Donc, il faut aller chercher des Français et des Belges. Et d'ailleurs, je suis tombé là-dessus avec un estimé collègue, Martin Crevier, qui me parlait qu'il est tombé dans ses archives sur un menu du banquet de Honoré Mercier qui est là en France. Puis il y a beaucoup de fruits de mer et même du Médoc et du Champagne.
C'est quand même intéressant. Ça permet, tous ces liens, ces échanges par la bouffe aussi, ça fait tellement très français. Et donc, cet engagement, à la suite de ces rencontres avec Mercier, cet engagement bilatéral, il s'est poursuivi avec Gouin, avec Taschereau. Ça a duré pendant longtemps. On a eu, bien sûr, probablement les liens plus accrus avec le Canada, entre le Canada et la France à la suite des guerres mondiales, avec les guerres mondiales, l'entre-deux-guerres, ces différents rapports et ces échanges qu'il y avait de population et tout ça. Mais on a l'époque du Plessis. Et c'est quelque chose que tu me disais en antenne, c'est de voir comment, à l'époque de Duplessis, on a décidé de tout fermer.
Ben, en fait, ça, c'est Duplessis aussi. Il faut concevoir ou prendre en considération sa vision un peu plus conservatrice du rôle de l'État. Ouais. Même si il y a de l'argent qui est mis pour l'augmentation de la taille de l'État, ça reste une vision qui est plutôt que les relations économiques. Ben, c'est pas nécessairement l'intérêt premier. Ouais. Et aussi, ça coûte cher entretenir des relations. Donc, alors, en 1936, il abolit les agences générales.
C'est un peu les agences générales, pour remettre en contexte pour nos auditeurs, c'est un peu l'ancêtre des délégations générales du Québec, non?
Oui. Ma mémoire est bonne, je pense que oui. Mais donc, c'est ça. Donc, on ferme tout ça, mais on a toujours la France ouvre un poste consulaire à Québec. Donc, les relations se poursuivent, mais il n'y a pas d'envoyés nécessairement là-bas. Donc, il faut attendre, en fait, jusqu'à la Révolution tranquille pour changer un peu l'ordre des relations. Tu sais, avant les années 60, on est rentré dans des ordres économiques ou avec des liens d'immigration. Par exemple, on a parlé d'Honoré Mercier, mais on avait également... Hector Fabre, qui était là pour aller recruter les Français. Ouais. Exactement. Mais là, dans la Révolution tranquille, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Québec, ben, il veut s'ouvrir sur le monde. On veut renforcer des liens avec la France. Justement, on est plus en divisions d'ouverture. Par exemple, on va créer la Maison du Québec à Paris en 1961. Jean Lesage va être reçu à l'Élysée comme chef d'État. Et on va avoir plus de relations pour moderniser l'appareil étatique québécois.
Et arrive, donc tu parles de Révolution tranquille, arrive aussi un des moments forts dans cette période. Je pense que tu vois où je veux en venir.
La
visite du grand Charles, du général de Gaulle, Charles de Gaulle, au Québec. Mais cette visite, il y a eu beaucoup de choses avant, parce que Charles de Gaulle avait donné son aval à André Malraux pour qu'il rencontre le ministre des Affaires culturelles Georges-Émile Lapalme. On avait des liens de plus en plus intenses. Tu parlais de Jean Lesage aussi. On a eu des liens autour de cette visite. Cette visite n'est qu'une suite de tous les liens qui avaient commencé à se créer de manière encore plus forte entre la France et le Québec.
André Malraux arrive, fait une visite au Québec en 1963. Il faut que la France aide à assurer son propre rayonnement dans le monde. Et pour cela, il doit avoir des alliés, bien entendu. Faut se rappeler, on est à l'époque de la guerre froide. Charles de Gaulle a une vision qui ne doit pas être prise entre deux pôles, mais bien avoir un pôle un peu à lui-même. Et on constate également qu'au niveau, dans les écrits de Claude Corbeau, ça va être relaté qu'au niveau de la France, on n'a pas une fatigue culturelle, une crainte de l'américanisation.
Ouais.
Alors, on va vouloir créer une civilisation de l'Atlantique avec la France et le Québec. Donc, c'est vraiment important d'entretenir des liens comme ça. Et Malraux va arriver au Québec et il va au Québec d'être fier d'eux-mêmes et justement d'un peu reprendre en main leur destinée, mais leur fierté un peu au niveau de la culture.
Et donc celle-là aussi, et ça tu nous avais parlé cet été un peu sur les politiques de valorisation culturelle du Québec, c'est à ce moment-là qu'on crée le ministère des Affaires culturelles l'effigie du ministère de la Culture française.
Mais exactement, donc on vient à... Mais ça c'est une des choses, une des outils de modernisation qui est, c'est le ministère des Affaires culturelles. Et en fait, c'est que ça rentre dans une autre logique, qui est la logique aussi de la technocratie française. Alors, la technocratie, on va tous laisser un peu plus à l'optimisation des données, la planification, l'aménagement, et il va y avoir une série d'outils qui vont être mis à disposition des Québécois à l'aide de la France, tels que la Caisse de dépôt du Québec, du placement en 1965. On va venir à gérer les sommes cumulées par la Régie des rentes, selon la touche des derniers. Et on va vraiment mettre l'accent pour que l'État québécois ait une capacité de commandement, de coordination et de communication.
Et donc, c'est là on voit cette modernisation de l'État, comme tu le dis, avec des capacités beaucoup plus grandes de planification et d'aménagement. On importe l'idéal technocratique tel qu'il pouvait être déjà plus présent dans l'Europe et la France des 30 Glorieuses. On importe ce modèle-là technocratique au Québec.
Exactement. On va arriver, donner des conseils. La France ne peut pas donner des conseils, mais grâce à la France, la capacité d'administration de gestion du Québec va croître. On va y aller, il y a une professionnalisation de la fonction publique. On va améliorer la formation et le perfectionnement. Et on va fonder l'ENA, l'École nationale d'administration. Exactement. Donc, on vient à donner tous les outils nécessaires pour avoir, c'est un petit peu un anachronisme de fois, mais une saine gestion. Mais bien, on va tout faire pour qu'on ait une politique économique qui soit rationnelle ou en fait tout rationaliser les opérations étatiques.
Arrive alors en 1965 l'entente en éducation, une entente extrêmement importante, car elle va nourrir un peu, parce que le but c'était à l'époque, ça s'est inversé, j'en suis un résultat, c'était envoyer les Québécois en France de manière beaucoup plus facilitée pour qu'ils reviennent avec une éducation plus forte, le temps que les universités québécoises se mettent à niveau, et donc nourrir le savoir québécois par une appréhension à l'étranger. Et maintenant, on sait que ces ententes, c'est beaucoup de Français qui viennent au Québec, mais ces ententes, elles datent de 65.
Oui, puis en fait, un petit raccourci là-dessus, pas un raccourci, mais un retour, mais un détour à vrai dire, c'est que oui, il y a cette entente-là, mais ça part aussi d'une doctrine qui est importante. Puis juste avant de parler de l'entente sur les stages d'éducation, on me permet de faire un petit tour sur la doctrine Gérer la joie, qui est une entente par acquis. Dans le fond, de prolonger les champs, prolonger en fait la position du Québec sur ses propres compétences. Donc, le principe, c'est le suivant. Puisque c'est moi qui l'applique, l'entente, dans mes propres compétences, je vais le négocier quand même et l'appliquer sur mon territoire avec les autres pays. D'ailleurs, cette doctrine-là, elle vient justement du génie du Pierre Lajoie, puisque dans la Constitution canadienne et dans le statut de Westminster en 1931, ben, il y a un flou. Il y a une brèche. Et Pierre Lajoie va l'exploiter, cette brèche-là, pour justement faire en sorte que le Québec négocie ses propres compétences à l'international. Et on va le voir justement en éducation.
Et cette brèche va aussi être exploitée par la France sur le contexte d'entente de gouvernement à gouvernement. On voit le Québec qui profite de ça pour faire des ententes dans le cadre de ces champs de compétences. Mais pour la France, de l'autre côté, c'est aussi un peu valoriser donc, cette position du Québec et cette culture, cette civilisation atlantique. Alors que, mais il a dû, ce Charles de Gaulle, il a dû quand même affronter dans le cadre de ce débat, les diplomates qui sont plus traditionnels au Quai d'Orsay, qui en Europe, on était encore dans l'idée du traité de Westphalie. Je me souviens, tu m'avais parlé de ça. Il y avait d'un côté les diplomates qui disaient « Ouais, mais c'est pas un pays », mais Charles de Gaulle disait « Oui, mais c'est un gouvernement ». Donc on parlait d'entente gouvernement et que les autres, c'était État à État. Mais quand on parlait d'État à État, c'est pas l'État fédéré, c'est l'État central fédéral et tout.
Ben, en fait, c'est ça, c'est que la traité de Westphalie, justement, l'organisation de l'État en État, puis le Québec ne l'est pas. Et en fait, qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est un bras de fer qu'on peut appeler, c'est l'entente en éducation et d'instaurer un programme d'échange d'enseignants d'étudiants de chercheurs français. Ben, à l'époque, ça avançait pas mal. Ça avançait quand même d'une certaine manière, puisque, c'était pas un État. Le Québec n'est pas un État dans dans l'orthodoxie du traité de Westphalie. Ça a pu poser problème. Et d'ailleurs, tout le long, ça crée même un triangle, une tension triangulaire entre Ottawa, Québec et Paris.
Ouais.
Parce que là, on arrive que le ministère des Affaires un ministère des Affaires intergouvernemental. Québec en 1967.
Ouais.
Charles de Gaulle arrive.
Ouais. Vive le Québec libre.
Mais de Gaulle, le plus, c'est Ottawa.
Mais c'est.
Ça passe pas.
Oh, excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, mais ça ne passe pas. Ottawa, sont pas contents.
Et on peut rajouter aussi, après 67, après le discours de Charles de Gaulle, c'est 1968, l'affaire du Gabon, une invitation exclusive pour le Québec à la conférence des ministres de l'éducation de la France et des pays africains francophones. 1970, deuxième conférence de Niamey, l'agence de coopération culturelle et technique est créée à l'instigation de la France. Et à l'époque, en 70, c'est que le cacardum va être encore plus fort, parce que, et on le sait, à la suite de 67 à 70, parce que qui est le premier ministre canadien à l'époque, Gabriel?
Ben, c'est Pierre Elliott Trudeau qui est là, et pour lui, ça ne fonctionne pas. Il est aussi dans la logique de Westphalie, qu'on échange d'État en État, et puis que le Québec n'a pas sa place, n'a pas son mot, surtout que ça l'éclipse.
Ouais.
On va être à la mode cette semaine, ça l'éclipse le Canada en faisant ça, quand la France décide de devancer le Canada en intégrant le Québec pas dans le concert des nations, mais en faisant une plus grande place.
Ouais. Et ça continue ensuite avec la politique de non-ingérence, non-indifférence de Valéry Giscard d'Estaing, qui reçoit René Lévesque en 1977, si je me souviens bien, c'est au moment où cette politique est mise en place. Et en 77, il le reçoit un peu comme un chef d'État. On a souvent, si on se souvient, dans les années 80, avec de nouveau les premiers ministres québécois qui sont extrêmement bien reçus, par exemple à la mairie de Paris, de nouveau en 95 ensuite.
Oui.
Donc cette politique de non-ingérence, non-indifférence, qui va rester la norme pendant des années, jusqu'à la fin des années Chirac, et arrive Nicolas Sarkozy, une personne qui en ce moment porte un bracelet électronique autour de le bas de sa cheville. Arrive Nicolas Sarkozy, président de la République de 2007 à 2012, qui met fin à cette politique de non-ingérence, non-indifférence pendant son mandat, car il se dit pour l'unité canadienne. Est-ce que c'est pour des intérêts économiques, ou est-ce que c'est son fond à lui, c'est ça le fond de sa pensée, mais il met fin à cette doctrine.
Ben, en fait, c'est le problème. Non-ingérence, son indifférence, c'est oui, OK, on a des relations avec le Canada, mais c'est également de se valoriser ou prioriser, avoir un préjugé favorable au Québec. Et ça cause problème. Mais c'est repris. Oui, OK, une rupture, ça plaît au fédéralisme pendant un certain temps. C'est Charest qui est là, c'est ma mémoire est bonne. Et, tu sais, on regarde ça, puis là, bon, OK, ben, ça fonctionne. Mais, en 2012, Pauline Marois est accueillie en France par François Hollande. Ouais. C'est François Hollande, tu sais, il prend le pouvoir, le Parti socialiste arrive au pouvoir, et bien là, la relation change. Tu sais,
la doctrine revient. La doctrine revient sous François Hollande, oui.
La doctrine revient, j'ai été chanceux parce que il y a 2 ans, j'ai fait un stage à la mairie de Paris grâce au comité d'action politique franco-québécoise. J'étais avec des anciens du Parti socialiste et les relations franco-québécoises pour eux sont très importantes et c'est la place du Québec se doit d'être de plus en plus grande au Québec en France. Ouais. C'était pas nécessairement pour tous, mais ça paraît, en fait, l'héritage de François Hollande chez certains de ses membres, ben, elle est toujours là.
Reste, et on le voit de l'autre côté, donc, avant de revenir sur la suite des choses, mais même pendant les années Sarkozy, on a eu Charest qui était comme pour l'émission internationale, qui était pour, à l'instigation aussi de constitutionnalistes et de professeurs dont le feu regretté de Benoît Pelletier, qui a eu avec tous ces gens autour de lui, qui servent fédéralisme et pour que le Québec s'assume dans ses champs de compétences. On a eu, par exemple, l'entente Québec-France de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles. On a une forte coopération bilatérale. On a eu François Fillon qui a été en bras de fer avec Ottawa pour que Québec participe à la conférence sur le climat de Copenhague, une des COP qui s'était déroulée. Donc, c'était plutôt Sarkozy avec ses pensées politiques personnelles, peut-être, qui étaient plus pour l'unité canadienne, fédéraliste, on sait qu'il est proche des Desmarais aussi, que l'apparatchik français politique, parce que même du côté de François Fillon, Fillon est un séguiniste et il fait partie de cette culture de droite républicaine proche de Chirac, proche des gaullistes, des anciens et des vieux gaullistes du RPR qui est ensuite passé à l'UMP aux Républicains, où le Québec est important et ce Québec reste important même maintenant, je pense, et on pourra revenir un peu sur la suite des choses avec tel que ça l'est maintenant avec Emmanuel Macron, avec les visites de M. Jean Barrette ou Mathieu Lacombe, mais le Québec reste important pour la France.
Ben, c'est ça, ouais, c'est que surtout, oui, ça s'est perdu un peu, ça s'est un peu effrité avec la pandémie, c'est normal, mais il y a quand même un héritage lié à ça. Grâce depuis les années 60, le Québec a pu se moderniser, ses institutions ont entré sur la scène internationale. Et ça paraît dans le sens que lorsqu'on invite Jeanine Barrette en 2022 pour parler de la loi 96, ben, on l'accueille comme étant c'est un membre d'un État qui est important quand même.
Ou comme donc, en retour l'année dernière, Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice français, qui vient en visite à Québec et qui vient à quel point rappeler l'importance des liens que le Québec doit garder avec la France.
Aussi. Oui, c'est une autre importance. C'est sérieux, certain. Puis je pense que ça peut nous mener à la visite de cette semaine.
Ouais.
Au final, ce qui en arrive, c'est que est-ce que c'est une continuité ou non? On nous le sur certains points. Peut-être que Louise Beaudoin disait cette semaine que bon ben c'est très bien que la France revienne, que Gabriel Attal vienne au Québec, mais d'une certaine manière, pour elle, il y a un relâchement des relations politiques avec la France depuis la CAQ. Puis peut-être ça se posait la question si on peut pas dire qu'on reviendrait un peu plus tôt, est-ce qu'on misait uniquement sur les attentes économiques? Parce que Martine Biron, pour elle, oui, c'est important les relations économiques, mais elle parle aussi de diplomatie identitaire. Donc, on est un peu, je dirais, un entre-deux de ce que je vois présentement. Et d'ailleurs, avec le programme qui sont prévus, si on parle de langue française, d'économie, de jeunesse, donc on est un peu comme dans un entre-deux présentement.
On est dans un entre-deux, mais cette visite, à mon sens aussi, ne doit pas faire ignorer que sur un aspect politique, on a eu dans les dernières années un Emmanuel Macron qui, au départ, était un peu indifférent à la visite de la France, aux relations entre la France et le Québec, avec un François Legault qui voyait ces relations comme aussi un moyen d'accroître les rapports économiques et les échanges économiques entre la France et le Québec. N'oublions pas que quand François Legault a pris le pouvoir en 2018, il a réorienté les missions des délégations générales pour devenir un peu des officines qui vont plus aider le Québec à pénétrer des marchés à l'étranger et à, donc à accroître ces échanges entre le Québec et ces nouveaux marchés qui doivent servir à la croissance et à la création de richesses et à l'apport de richesses au Québec. Mais là, on a eu dans les dernières années un Emmanuel Macron qui a été outré de la réaction de Justin Trudeau à la mort de Samuel Paty, le professeur qui s'est fait couper la tête par un terroriste islamiste. On a eu aussi un Gabriel Attal et d'autres ministres qui à l'époque étaient ministres de l'éducation qui étaient quand même qui défendaient la laïcité et qui prenaient l'exemple du Québec et de voir que la laïcité continue à être protégée d'un côté mais attaquée par ses détracteurs et qu'il fallait supporter ceux qui souhaitent la mettre en avant. Donc on a de la convergence culturelle, pour être à la mode en disant un mot, qui reste d'actualité entre la France et le Québec.
C'est le nom du monde, ça.
Oui.
Et c'est mais, oui, mais si tu me permets, tu sais, justement, tu parlais comme d'Emmanuel Macron qui arrive, puis on se colle plus au Québec à cause d'une convergence culturelle. Et pour comprendre ou pas, ça dépend des perspectives, mais. Comparativement aux autres partis français, comme les Républicains ou le Parti socialiste, ils ont une relation avec le Québec qui est plus importante que En Marche ou le parti d'Emmanuel Macron. Par exemple, lorsque je faisais ma mission en France en 2022, l'ouverture du PS, on a revu Anne Hidalgo, des Républicains, Rachida Dati à la mairie de Paris. Bien, tu sais, s'il y avait vraiment une volonté qu'on veut continuer, on veut de faire perdurer les liens. Mais ça a été plus difficile avec les gens d'En Marche, ce que j'ai pu comprendre. Mais bon, là-dessus, on a des points, surtout en commun. C'est sûr, ça.
On a eu, de l'autre côté politique québécois, un accueil quand même assez important. On est très heureux de voir le Premier ministre français, Gabriel Attal, se rendre au Parlement. Il a prononcé un discours hier après-midi. Et dans les réactions des politiques, on a une volonté, à part peut-être le PLQ, on se demande pourquoi, de voir la France, attendre que la France revienne à sa politique de non-ingérence, non-indifférence. Néanmoins, il y a eu des choses qui sont assez intéressantes à suivre au niveau de la politique ici. C'est par exemple que du côté de Québec solidaire, qu'il y a une sorte de, on espère que ça va arriver, mais de l'autre côté, on aurait du mal à accepter que ce soit cette France-là qui le fasse, car la France est un peu à droite. Donc c'est que ces relations France-Québec ne peuvent quand même, ont quand même du mal à sortir du carcan de nos débats politiques québécois, et c'est assez dommage parce qu'on parle de politique internationale là.
Ben, c'est un peu le Québec solidaire, des fois, c'est à ce niveau-là, c'est comme dire, bon, on va faire l'indépendance, mais si c'est à droite, on la fera pas nécessairement. C'est poser des conditions. En ce moment, c'est qu'il est plus à droite, le gouvernement Macron, que qu'est-ce qu'il avait dit, qu'il est plus centré. Mais on va voir qu'est-ce qui va arriver à ce niveau-là, mais tu sais, il y a quand même des... D'ailleurs, pas pour faire des liens avec ce que Mme Miron disait, mais c'est plus se serrer les coudes au niveau de la francophonie et de la laïcité. Mais est-ce que Québec solidaire rejoint ces deux concepts-là? La francophonie, c'est sûr et certain, mais la laïcité, elle le rejette. Donc, c'est sûr que pour elle, avoir une. Peut-être vaut mieux se rejoindre du côté anglo-saxon, puis une vision d'un modèle d'intégration plus multiculturelle ou indépendamment des visions, que d'un modèle laïque, qui est aussi beaucoup plus ferme que le modèle québécois, il ne faut pas l'oublier. Là. C'est pas la même chose. On dit oui, la laïcité, c'est, on est pareil, la France et le Québec, mais en même temps, c'est faux. Eux autres, l'interdiction de port religieux vont jusqu'aux élèves. Nous autres, ça arrête aux enseignants qui sont rentrés en poste après que la loi a été déposée. Donc, il y a un changement de design, ça va occuper le bail.
Donc, au niveau de, pour revenir un peu sur ces rapports, donc au niveau des relations Québec-France, c'est aussi cette visite, comme ton exposé d'aujourd'hui, c'est rappeler les valeurs en commun qui entre la France et le Québec. On a la langue, on a beaucoup de valeurs culturelles. Mais tu le disais, ça c'est quand même très beau ce que tu disais au début, cette volonté de créer cette civilisation atlantique, cette idée qu'un autre modèle est possible, autre que le modèle américain anglo-saxon, entre ces deux océans qui nous unissent, mais qui aussi marquent un peu une distance entre nos peuples.
Oui, bien ça, c'est important. Puis, bon, ce serait souhaitable pour le Québec que ça perdure. Parce qu'en tant que tel, on le regarde, si on est 3% de Québécois dans un océan de 97, pas pour sonner cliché, mais c'est ça, dans un océan anglophone. Puis la France a besoin de nous, d'une certaine manière, puis on a besoin d'elle également pour la promotion du français ou la survie, dépendamment de l'angle d'approche. Et il y a quand même une volonté gouvernementale présentement. Mais le ministre de la Culture, le Québec, on l'a un peu mis sur l'avant-plan pour avoir un plan sur le numérique, de faire attention aux grandes plateformes. Mais ça reste à voir dans tout ça. Ce serait souhaitable que le Québec soit plus invité en France et vice-versa. De revenir à ces stages-là, par exemple, des stages en éducation, ça a tellement été génial, ça a tellement permis à, si je prends l'exemple de l'enseignement d'histoire, d'avoir en didactique, en univers social, d'avoir un échange de connaissances de pratique.
Ouais.
Donc, tu sais, on n'a pas le choix pour. Et même, je dirais, c'est au niveau de la sphère intellectuelle ou même la sphère académique, le Québec, la France, il y a davantage, on aurait notre propre historiographie, notre propre littérature, qui on dépendrait plus nécessairement de toujours se référer à l'anglais lorsqu'on fait des communications.
Ça, c'est quand même intéressant, c'est quand même extrêmement important au niveau de cette langue, et tu parles au niveau de la culture, ça sera un peu le mot de la fin, Gabriel, c'est que la France... Et il y a un échange culturel qui se fait. Le Salon du Livre de Paris, où le Québec est mis à l'avant. C'est pour ça que Mathieu Lacombe est à Paris. Il y a une mission culturelle pour parler un peu des contenus en français sur les genres numériques, comme tu expliquais. Mais la France va être mise à l'avant au Salon du Livre de Paris. Et aujourd'hui, Gabriel Attal va être au Salon international du Livre de Québec pour le visiter et un peu faire cet échange culturel. Donc on voit les liens sont là présents et ces visites sont un moyen de le rappeler.
J'écoutais hier à la radio, c'était que deux anciens ministres de l'éducation se rencontrent, s'en vont dans une école.
Ouais.
C'est symbolique, c'est beau, mais effectivement, les salons du livre, je crois qu'il y a une place une plus grande place qu'on doit faire aux deux pour avoir notre propre littérature.
C'est sûr. Gabriel Jarvis, qui est notre consultant en matière d'histoire, notre consultant et chroniqueur en matière d'histoire, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours apprécié de pouvoir discuter avec toi.
Merci à toi.
C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve tout de suite après les nouvelles de Radio Vatican pour questions d'actualité. Et la semaine prochaine pour la deuxième semaine de remplacement de questions d'actualité. Et bien sûr aussi le monde d'aujourd'hui, vendredi prochain à 11h30. Passez de très beaux moments aux antennes de Radio VM.